Très bon dimanche, vous écoutez Beurre FM, il est midi.
Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon et Émilie Avril sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche. Mon invité aujourd'hui a un cursus hors norme, il s'appelle Philippe Bonne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes d'accord avec ça? Vous avez un cursus un peu hors norme?
Ben, c'est très subjectif comme question. J'ai un cursus africain et de brousse, alors oui, hors norme probablement.
Bon, vous publiez un livre qui s'appelle « Profession agent d'influence », sous-titré « Business Élysée Afrique, les aventures d'un homme de l'ombre » aux éditions Plomb. Avant, les hommes de l'ombre y restaient.
Dans l'ombre.
Ouais. Et depuis quelques années, alors par exemple, on le voit avec les plumes de chefs d'État. Alors maintenant, ils disent tous qu'ils ont été plumes d'eux. Et les hommes de l'ombre, eux aussi, sortent de l'ombre. Vous voyez, les ancêtres, les Jacques Faucard, tout ça était dans l'ombre, ils y restaient.
Oui, alors d'abord, je ne me qualifierais pas d'homme de l'ombre. Ça, c'est l'approche marketing des éditeurs, sans doute. Mais simplement, on peut être caché dans la lumière du contre-jour.
Homme de réseau, ça vous va mieux?
Oui, mais tout est réseau dans la vie. Internet, c'est du réseau. Le réseau des grandes écoles, les réseaux neuronaux, tout est réseau. Le réseau, c'est la vie. Donc oui, homme de réseau.
Surnommé le monsieur Afrique d'Airbus, vous êtes aujourd'hui le directeur général d'Air Sénégal. Est-ce que vous êtes d'accord si on dit que votre livre, c'est l'histoire d'un constructeur de décision?
Absolument. C'est d'ailleurs, au départ, c'était véritablement l'idée. Je voulais faire un que sais-je. Et mon idée, c'était d'expliquer comment on construit de la décision. Il y a des ingénieurs qui construisent des routes, des ingénieurs qui construisent des ponts, des avions. Moi, je suis un ingénieur de l'humain, comme je dis. Mon métier, c'est de construire de la décision, en effet.
C'est même un métier artisanal. Et c'est ce qu'on voit dans votre livre. Un métier de l'artisanal et de l'humain.
Oui, c'est la technologie. Et c'est véritablement l'objet du livre. C'est la technologie du réseau d'influence. Parce que le réseau, c'est simplement un outil. Comment on le construit? Comment on l'utilise? Comment on le met au service d'une entreprise pour un projet industriel, pour un projet commercial? Ça, c'est valable aussi en politique. Pourquoi pas, bien sûr. Mais une fois encore, l'humain, c'est de la technologie. C'est une science, les sciences humaines. Et c'est pour ça qu'au départ, on devait l'appeler les ingénieurs de l'humain, d'ailleurs.
Et en tout cas, c'est réussi. Pour moi, c'est un livre de stratégie que... Enfin, en tout cas, je conseille à tous ceux qui envisagent de construire des réseaux de le lire. Vous avez découvert, vous, très tôt, et sans l'avoir conceptualisé, l'utilité d'un réseau. Vous aviez 10 ans.
Oui, parce que quand on est pensionnaire dans un microcosme, comme chacun sait, pour ceux qui sont allés en pension, c'est pas toujours simple. Alors, on est toujours un peu en mode survie. Et donc, faut tisser son réseau, hein, les potes, les copains, les clans. C'est la vie elle-même. C'est rien de neuf, finalement. Simplement, comme beaucoup de gens, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, chacun d'entre nous fait du réseau. Simplement, voilà, j'ai voulu le conceptualiser, l'expliquer, et parfois même l'enseigner, d'ailleurs.
Bon, il y a 10 ans, vous vous appuyez sur qui, sur votre réseau? Vous aviez déjà le nez creux, il faut le dire. Vous aviez un radar.
Bah, d'abord, sur les potes, parce que l'amitié, pour moi, c'est important. Et puis... Et puis, plus on est nombreux et plus on est fort dans un réseau. Et plus on a la capacité de réunir un ensemble de gens, un puzzle de gens pour faire le chemin et plus facile la route.
Bon, ça, c'est quand vous avez 10 ans. Ensuite, alors vous devenez, je ne sais pas, parce que vous n'arriviez pas à faire de grandes études, vous devenez photographe un peu par hasard.
Par hasard, oui et non. J'ai commencé à travailler assez tôt. Enfin, je poursuivais mes études. Mais comme il fallait que je paye mes vacances, ben, j'ai commencé à travailler comme assistant photographe dès la troisième. Vous voyez, alors j'ai eu la chance d'ailleurs...
14-15 ans, quoi.
Ouais. Oui, de travailler avec des grands de la photographie. Je pense à Frank Horvat, à Edmund Newton, enfin des gens comme ça. Et puis, voilà, les choses s'enchaînent petit à petit, mais j'ai commencé à travailler assez jeune, tout en poursuivant... mes modestes études.
Oui, mais les choses s'enchaînent, mais pas forcément. Finalement, on est dans les années 80. Vous croisez Thierry Ardisson à l'époque. Vous êtes dans les coulisses des émissions de Thierry Ardisson, qui sont pour toute une génération culte aujourd'hui.
Oui, alors c'était pas des émissions à l'époque, c'était les reportages qu'il faisait, voilà, dans Rock'n'Folk, Décembre de police. Thierry Ardisson a été un des précurseurs avec Jean-Luc Maître, si j'ai bonne mémoire. Il faisait des interviews un peu trash et c'est vrai que ça a été un des précurseurs. Moi, j'étais simplement l'assistant du photographe, mais j'étais en seconde ou en, je sais plus, enfin bref, c'est il y a fort longtemps.
Comment est-ce que l'assistant du photographe arrive en Afrique? Parce que là, vous avez toute une période pipo, donc vous y passez vite dessus. Alors quand même, elle est magique, hein, ces années pétillantes des années 80, se retrouvent dans la brousse.
Alors, il y a des parcours où parfois, comme disait Oscar Wilde, il n'y a pas de questions indiscrètes, il n'y a que les réponses qui parfois le sont. Et donc, de fil en aiguille, disons que je me suis retrouvé à faire du reportage de guerre dans des pays complexes.
Mmh. C'est pas comme ça. Alors, d'abord, ça commence par une encyclopédie.
Oui, absolument. J'ai eu
Alors, ça commence par une encyclopédie. Comme quoi, l'encyclopédie mène à tout.
N'est-ce pas ? À condition d'en sortir. C'était le grand dictionnaire encyclopédique de la Côte d'Ivoire. Un ouvrage que Offouet de Boigny avait souhaité co-publié d'ailleurs, Berger Levrault et les nouvelles éditions africaines de mémoire. Et moi, j'étais l'assistant du photographe qui illustrait une partie de cette encyclopédie, et ce qui m'a permis de faire plus de 30 000 kilomètres dans le pays, ce qui est quand même beaucoup. Quand on connaît la Côte d'Ivoire, faut rouler. Hein.
Donc vous quittez Castel et le 5e et 6e arrondissement de Paris, vous vous retrouvez dans la brousse. Qu'est-ce qui fait que c'était plus intéressant ce que vous trouvez en Afrique à ce moment-là, que sur la rive gauche de la capitale parisienne?
En dépit du fait que, comme tout un chacun, j'aime les filles de chez Castel, n'est-ce pas? Pour autant, j'ai toujours été beaucoup plus attiré par la brousse et l'état sauvage.
Ouais. Expliquez-nous ça, parce que finalement, vous vous retrouvez là. Parce que cette passion africaine, ça va faire le gros de votre carrière, on va dire. Et vous êtes devenu, je mets entre guillemets, le carnet d'adresse de l'Afrique.
Oui, je sais ce que je dois à ce continent. J'y ai rencontré des personnes qui ont effectivement marqué très profondément tout mon parcours et pour qui j'ai un immense respect. Peut-être parce que j'aime les cultures, j'aime les nations, les peuples qui ont des cultures, qui les défendent et qui en sont fiers. Parce que j'aime cet échange. Et donc, c'est vrai que c'est un continent sur lequel j'ai beaucoup travaillé, sur lequel je travaille encore. J'ai des amis très, très importants. Et comme je ne calcule pas grand-chose, moi, je vais là où mes amitiés et mon cœur me guident. C'est comme ça que je travaille.
Celui qui vous ouvre les portes de l'Afrique, c'est Jonas Savimbi.
Ah, Jonas Savimbi, oui. Oui. Un grand combattant de la liberté. C'était l'époque des luttes anticommunistes, hein, l'époque Est-Ouest. Il faut recontextualiser. À l'époque, il y a encore le mur de Berlin. Et grosso modo, les puissances occidentales soutiennent discrètement ce combattant de la liberté, les airs Reagan. Oui, ça a été pour moi un des grands leaders du continent, un combattant déterminé et en même temps un grand humaniste, quand on le connaissait bien.
Vous arrivez en Afrique, c'est la fin des années 80. Pour ceux qui nous écoutent, finalement, il n'y a pas de téléphone portable à l'époque. Déjà, il faut s'imaginer qu'il n'y a pas d'Internet. Communiquer, ce n'est pas du tout la même vitesse qu'aujourd'hui.
Non, pas du tout. C'est très clair. Quand on est en brousse, on est en brousse. Et à part la radio onde courte pour écouter vos confrères de RFI qui ont bercé mes voyages ou tout ce qu'on arrivait à capter difficilement au fond de la brousse, oui, non, c'est d'ailleurs pour ça qu'on tombe amoureux aussi. C'est mon côté écolo, les grands espaces.
Vous vous souvenez de votre première rencontre avec Jonas Savimbi? Vous saviez qui c'était, ce qu'il représentait?
Oui, bien sûr. Je savais ce qu'il était, je savais qui il était, je savais qui il représentait. Et paradoxalement, la première fois que je l'ai rencontré, ce n'était pas en Angola, puisque j'étais déjà allé dans le maquis.
C'était à Rabat.
Mais c'était à Rabat, au Maroc, et c'est la première fois qu'il m'a reçu.
Et qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là?
D'abord, il écoute parce que c'est comme tous les grands leaders, avant de parler, il écoute ce que les petits bons hommes comme moi ont à lui dire. Et donc,
mais qu'est-ce que vous aviez à lui dire, vous, finalement?
Des tas de choses à échanger, à lui proposer, et à voir comment on pouvait contribuer à renforcer justement son réseau d'influence. J'appartenais aussi à une famille politique qui souhaitait...
Le Parti Républicain, donc.
Oui, et
de François Léotard.
De Gérard Longuet, d'Alain Madelin, absolument. Qui...
La bande à Léo.
C'était les libéraux qui soutenaient tous ces combattants de la liberté, oui.
Et donc, il vous envoie d'une certaine façon en mission.
D'une certaine façon. Et c'est vrai que Jonas Savimbi était un personnage qui, comment dire, c'est un sujet très complexe. On a beaucoup caricaturé, on disait, voilà, l'UNITA, c'est le monde libre, les Occidentaux contre le bloc communiste. Et quand on voit, par exemple, le soutien que l'Afrique du Sud apportait, que l'ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud, apportait à l'époque au MPLA, la dictature communiste en place à Luanda, en fait, c'était plus complexe que ça. Au sein de l'ANC, il y avait des personnages, y compris comme Nelson Mandela, qui a reçu Savimbi dans son village natal, à une époque, où le président Thabo Mbeki, qui était beaucoup plus équilibré sur leur approche de ce que représentait l'UNITA, qui pour eux était un véritable parti panafricain de libération. Et il y avait aussi là des communautés fraternelles, non pas surprenantes quand on connaît vraiment le fond des dossiers, mais intéressantes à mettre en lumière.
C'est le sujet de votre livre. Alors, essayez de nous faire comprendre comment vous, au moment où vous le rencontrez, finalement, vous allez tisser cette relation de confiance avec lui, une relation de confiance que vous allez tisser avec beaucoup d'autres personnes dans le monde. Comment vous faites à ce moment-là? Et comment il arrive à vous faire confiance? Alors qu'il ne vous connaît pas.
Bien sûr, mais d'abord, on est dans un contexte global où si j'arrive devant lui, ce n'est pas complètement par hasard, d'une part. Et d'autre part, j'ai sans doute, comme tout un chacun, beaucoup de défauts, mais je pense que j'ai une qualité, c'est celle de la fidélité à mes amitiés et la force de mes engagements. Et ça, ça ne se discute pas, ça ne se calcule pas, ça se reconnaît.
Mais ce que vous expliquez, c'est qu'un homme de réseau, finalement... Il y a beaucoup de maillons au réseau. Comment est-ce qu'on peut avoir tellement de fidélités? Est-ce que ça veut dire que ce sont des fidélités qui sont multiples?
Non.
Et des engagements qui sont multiples? Et est-ce qu'on est forcément obligé d'adhérer aux gens qu'on va rencontrer?
Alors, je crois que la base de cette activité, par exemple, si on parle de la technologie du réseau d'influence, pour y
c'est
revenir...
C'est le cœur de l'histoire de votre livre.
Il faut
vraiment comprendre ça.
Absolument. C'est une technologie, c'est un métier, ça s'apprend et ça se développe. Comme chaque métier que l'on pratique, la radio, la télévision, être un ingénieur de qualité, être un grand commerçant, si on n'aime pas ce qu'on fait, si on n'a pas d'empathie vis-à-vis de l'autre, en tout cas pour cette partie du métier, on ne peut pas le faire. Donc bien évidemment, on a tous une inclinaison au départ de ce qu'on aime faire. Et quand on aime faire les choses, on essaye de les faire bien. Le réseau, c'est un mot qui parfois a une connotation péjorative, alors qu'une fois encore, il n'est que l'interaction entre chaque individu. Quand on aime les gens, on est déjà prédisposé ensuite travailler de façon, j'allais dire, dans le cadre de process qu'on peut décrire, et c'est une fois de plus encore l'objet du livre, et c'est ça le fond. Mais il faut une base, et cette base...
Donc à la base, vous ne trichez pas,
il faut aimer les
vous
gens.
Êtes empathique et vous aimez tout le monde.
À la base, je suis quelqu'un qui fait confiance. Et par exemple, en tant que manager, je dirige des entreprises, parfois, ça me crée des déboires, parce que quand on fait confiance, on est parfois trahi ou parfois déçu. Mais par contre, ça donne de grandes forces, parce que ça permet de construire des équipes très, très soudées, très cohérentes, et avec lesquelles on peut travailler de façon efficace. Dans
vous êtes souvent trahi ?
Comme tout un chacun, ça peut arriver, mais dans l'ensemble, j'ai toujours eu la chance d'avoir...
Vos radars fonctionnent bien.
Oui, dans l'ensemble, ça va.
Bien.
Dans l'ensemble, ça va.
Restez avec nous jusqu'à 13h, Philippe Bonnet, notre invité. Jusqu'à 13h, nous feuilletons aujourd'hui Profession d'un agent d'influence aux éditions Plomb.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon et Émilie Avril sur Beurre FM.
Et Philippe Bonnet, l'invité du Book Club aujourd'hui, profession agent d'influence aux éditions Plomb Business, Élysée Afrique, les aventures d'un homme de l'ombre. Quand j'ai lu votre livre, j'ai pensé à une chanson de Luc Plamondon et de Michel Berger.
Je chante faux, alors là vous allez me poser une colle.
Le blues du businessman.
Le blues du businessman.
Ouais.
Mais
à un moment donné, il dit quand il s'envole, j'aurais voulu être un artiste.
Ah oui, oui, enfin, absolument. Ça y est, j'y suis.
C'est celui qui est dans tous les Hilton de la Terre. Je ne vais pas vous demander un petit peu votre conceptualisation de la valise parfaite. Mais ça s'apprend à faire une valise de cabine.
Ah ben c'est une obsession permanente. On cherche toujours à optimiser. Moi, j'ai trois obsessions qui sont la bonne paire de chaussures pour crapahuter en brousse, la parka idéale et la valise qui permet d'en mettre le maximum sans être obligé de l'engager et de la mettre en soute en avion. Voilà, ça c'est une obsession permanente.
On a combien de vies dans la vie ?
Moi je suis plutôt zen, donc on a une vie éternelle à chaque instant.
Vous, vous auriez été bon dans n'importe quoi finalement ? Vous auriez été bon comédien, bon animateur de radio, bon tout quoi.
Bon à rien peut-être surtout, mais en tout cas, j'essaye de faire bien ce que j'aime, ce qui est assez facile finalement.
Quel était votre titre quand Alfred Sirven vous embauche chez Elf, puisque vous aviez une mission qui était de bâtir un réseau d'influence dans une zone ou un pays donné? Qu'est-ce qu'il y avait sur votre feuille de paye?
Je crois que j'étais conseiller pour les affaires internationales du président. Je devais formellement être rattaché à un monsieur que je tiens d'ailleurs à saluer parce que pour moi c'était un des grands présidents, à Loïc Le Floch-Prigent, qui était le président de Elf à l'époque. On oublie trop souvent que c'est un immense industriel qui a fait la fortune de cette entreprise.
Le Floch, comme on disait.
Oui, je ferme la parenthèse. Et donc, je rapportais effectivement à Alfred Sirven. La mission était particulière, elle consistait grosso modo, ça a été dit d'ailleurs dans une belle émission, Une Afrique sous influence, d'Arte il y a des années. La mission était quand même grosso modo de gérer les relations, disons, avec les mouvements d'opposition partout où Elf avait des installations potentiellement à risque.
Et dans cette émission, on disait qu'il y avait quelqu'un de spécial qui s'occupait de ces affaires, et c'est à cette occasion-là que vous sortez de l'ombre, puisque finalement vous voyez votre rôle officialisé.
À mon corps défendant, n'est-ce pas ? Mais dans ces cas-là, il faut faire avec.
Oui, mais... Et c'est ça qui est important, parce que vous expliquez ce que... Alors, on appelle ça comment ? Des diplomaties parallèles, des...
Oui, alors c'est un point de vue... De mon point de vue, elle n'est pas parallèle, parce qu'elle est directe et quotidienne. Parallèle, oui, c'est le monde de l'entreprise. Ne séparons pas tout. Enfin, séparons les choses. Elle fait une entreprise. Je travaille pour une entreprise, certes publique, au départ, qui est un des plus grands pétroliers français. Donc, ça ne prétend pas, en aucune manière, faire de la diplomatie au sens Quai d'Orsay du terme.
Sauf qu'à l'époque, on vous dit, Elf, c'est la France. C'est ce qu'on vous dit à l'époque.
C'est ce qu'on me dit, oui.
Vous voyez, donc,
c'est ce qui se dit.
Qu'est-ce que vous arriviez à obtenir que, par exemple, quelqu'un du Quai d'Orsay ne pourrait pas obtenir ? Quelle est votre valeur ajoutée en tant qu'agent d'influence, homme de réseau ?
Je fais partie de ces gens qu'on envoie au fond de la brousse et dans des endroits où tout le monde n'a pas forcément envie d'aller et qui, par définition, n'existant pas, ne sont en aucune manière reconnus d'aucun... une sorte, de quelque façon que cela soit. Donc on fait le boulot, et puis voilà. Il n'y a pas d'enjeu, personne ne revendique quoi que ce soit. On accomplit une mission, on l'amène à bien, personne ne le sait, personne n'en parle. Ça n'existe pas, par définition.
Et vous dites quelque chose d'intéressant, c'est que finalement, ça ne sert à rien de croire qu'on a été important si les choses se font, de croire qu'on a eu un rôle.
On est toujours un maillon dans une chaîne, et j'allais dire tous les maillons sont essentiels et aucun n'est indispensable.
Vous dites que vous devenez l'outil d'un décideur sans jamais vous mettre en avant. C'est ça la qualité finalement d'un bon agent d'influence, c'est quelqu'un qui sait s'effacer finalement devant son boss.
Absolument, ouais, une fois encore, je pense, j'ai peut-être tous les défauts de la terre, mais je reste à ma place. Moi, je suis, voilà, c'est la bonne définition, un outil dans la boîte à outils du décideur. Et c'est comme ça qu'on arrive probablement le mieux à participer, comme le fait un outil, à la construction de la décision. Mais il faut savoir rester un outil. Moi, j'ai jamais eu aucune autre prétention que d'être un outil performant. J'essaye d'être l'outil préféré ou le meilleur outil de la boîte, mais je suis dans la boîte du décideur.
Mais c'est quoi votre récompense au final ? Si vous n'en avez pas la reconnaissance, si vous n'avez pas la paternité de quelque chose qui fonctionne ? Vous tournez à quoi ?
Alors, je tourne, mais j'ai un luxe énorme, inouï. C'est-à-dire que comme j'ai une empathie et que mon seul luxe, c'est que je décide avec qui je travaille. Et donc, en général, ce sont des gens que j'aime, pour lesquels j'ai de l'estime, du respect, pour lesquels j'ai plaisir à m'engager. Donc, oui, le travail est dur. Quand on fait de l'industrie, le travail est dur. Quand on construit une entreprise, le travail est dur. Quand on construit un process de décision pour une action commerciale ou peu importe. Mais quand on le fait avec des gens qu'on aime bien et pour qui on a envie de s'engager, c'est facile et c'est un vrai luxe, le plaisir de l'engagement.
Mais il y a pas que ça. Il y a quoi?
C'est vraiment le moteur essentiel. Alors, bon, j'ai toujours travaillé dans des grands groupes ou construit des entreprises qui m'ont permis de bien gagner ma vie, c'est très clair. Bon, mais c'est pas le moteur.
Vivendi, Airbus, voilà, des grosses...
Mais je reste un employé d'une entreprise. Que je la dirige, que j'appartienne au groupe des dirigeants ou que je sois un cadre moyen au fur et à mesure des différentes carrières. Mais ça reste un outil. Je reste un outil.
Vous évoquez dans votre livre quasiment que des histoires qui se finissent bien et dans lesquelles vous avez le beau rôle. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'histoires où ça se finit moins bien ?
Ah ben, il y a toujours des histoires d'échecs, bien évidemment. Et d'ailleurs, j'envisage de faire des...
Il n'y a pas beaucoup d'échecs dans votre livre. Là, je vois que quasiment que des succès, on va dire.
Si, il y a des échecs. Le premier, le chapitre le plus important... pour moi, sentimentalement, c'est ce soutien et cet engagement avec Jonas Savimbi qui est mort au combat.
Et donc, qui va vous ouvrir les portes, qui va vous apprendre le métier, et qui va vous apprendre l'Afrique, et qui va vous donner votre carte de visite africaine.
Bien sûr, mais puisqu'on parlait d'échecs.
Vous avez été approché après, parce que justement, vous le connaissiez bien.
Ce que je veux dire, c'est que c'est un échec en ce sens que nous n'avons pas réussi à renverser la dictature communiste qui était aux affaires et qui l'est d'ailleurs toujours en Angola, même si elle a évolué, bien sûr. Et donc, si, c'est un échec, mais c'est très relatif. C'est un échec au sens de l'aboutissement du process, mais c'est un succès parce que la qualité de l'engagement et le respect, comme vous l'avez souligné, les portes que ça ouvre derrière, en font d'une manière différente une forme de succès.
Mmh. Vous disiez que vous étiez empathique, mais quand on veut construire un réseau, quelle est la part de spontanéité et quelle est la part de... de réfléchi, finalement.
De réfléchi, bien sûr. Alors, il y a une part de réfléchi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un schéma dans l'un des chapitres du livre, parce que je travaille sur un process. Une fois encore, si on revient sur le strict aspect professionnel, comme construire une entreprise, construire un réseau qui a pour objet de faire prendre une décision à un décideur, ce que j'appelle le décideur ultime, eh bien, c'est un process. C'est un process qui est lié aux sciences humaines. Je ne suis pas l'inventeur des sciences humaines, mais c'est pour ça qu'on peut le mettre en process, c'est pour ça qu'on peut l'enseigner, c'est pour ça qu'on peut l'apprendre, c'est pour ça qu'on peut le dessiner. Donc, bien évidemment, il y a une partie de travail précis, certains diront de calcul, mais toute relation
vos
humaine.
Calculs, vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire finalement, je vais être sympa avec toi parce que tu peux me servir ou tu vas me rapporter quelque chose. C'est là qu'il y a le calcul.
On peut le traduire de cette manière, bien évidemment. Ceci étant dit, dans toute relation humaine, quelle qu'elle soit, relation amoureuse, relation amicale, il y a toujours un échange. Mmh. Et quand on dit échange, en mathématiques, ça veut dire calcul. C'est simplement, qu'est-ce qu'on met derrière ces mots? Ils ne sont pas péjoratifs, ils sont la vie elle-même. La vie est un échange. Quand on fait de l'interaction entre nous, il y a une forme de calcul. Quand vous argumentez avec quelqu'un avec qui vous dialoguez, vous donnez un argument, il reçoit cet argument. Il y a un échange et il y a un calcul. Je donne un argument parce que je calcule que la réaction que je vais avoir en face va être X, Y ou Z. Donc, simplement, c'est la constatation factuelle de ce qu'est la relation humaine en général.
Mmh. Donc, c'est un calcul, on va dire, plus ou moins calculé.
Oui, mais ce n'est pas péjoratif.
C'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est ni bien ni mal, ni péjoratif.
C'est un outil. Un outil, qu'est-ce que c'est? Un outil, un réseau, c'est comme un marteau. Un marteau, c'est bien si vous l'utilisez pour planter un clou et accrocher votre tableau. Si vous l'utilisez pour fracasser le crâne du voisin, c'est moins bien. L'outil est neutre, il n'est ni bon ni mauvais, il est ce qu'on en fait. Le réseau, la façon d'appréhender le réseau, c'est ni bien ni mal, c'est ce qu'on en fait, comment on le construit, comment on l'utilise, avec quel objectif et de quelle manière.
Vous aviez une stratégie définie pour approcher Kadhafi?
Oui.
Est-ce que le fait d'approcher d'abord ses fils, c'était dans votre stratégie, par exemple?
Oui, au départ, bien sûr. Au départ, on a fait la façon dont je travaille est très simple. Hein, une fois qu'on a identifié le décideur ultime, je m'emploie à faire le mapping, la cartographie de l'environnement de ce décideur et de tous les paramètres qui contribuent à construire sa décision, sa vision du monde. Une fois encore, c'est dans le schéma là, un des derniers chapitres du livre. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce mapping, eh bien, je mets les ressources humaines dans mes équipes en face de chacun des éléments qui doivent être traités pour accéder au décideur ultime.
C'est ce qu'on appelle une équipe miroir.
Absolument.
C'est quoi une équipe miroir, pour ceux qui nous écoutent ?
Eh bien, une équipe miroir, ça consiste par exemple à considérer que, prenons un chef d'état-major qui serait le décideur ultime, il a un certain nombre de ses collaborateurs, un certain grade, il peut avoir des éléments personnels qui contribuent à construire sa décision, et l'idée c'est de mettre en miroir, dans mes équipes, chaque personne qui va traiter des éléments identifiés de ce tissu, de ce puzzle, de ce réseau d'influence. C'est ce que j'enseigne.
Mmh. Et vous expliquez que vous finissez par rencontrer Kadhafi. Vous y allez alors avec le petit livre vert traduit en français.
Ça
c'est de la stratégie.
Ça, c'est un métier.
Ça, c'est du métier, oui. Il faut le trouver, hein.
Ah, je dois dire que j'ai fait un peu travailler un de mes collaborateurs, qui était toujours un homme de grande qualité, qui tenait notre bureau à Tripoli. Et je lui dis, on va voir le guide, il faut venir avec le livre vert. Alors, il m'apporte une version dans un langage que je comprenais peu. Je lui dis, non, attends.
Il croira jamais que je l'ai lu.
Et je lui ai donné le challenge, je lui ai dit, tu vas me trouver le livre vert en français et usagé. Et il m'a trouvé le livre en vert en français et usagé. Et j'avais évidemment lu quand même quelques extraits. Et comme je suis un hégélien, j'ai fait une lecture hégélienne du livre vert au guide, qui était, je dois dire, un homme qui savait avoir de l'humour, était, je pense, assez épaté. Il m'a fait une très belle dédicace, d'ailleurs.
Que vous avez toujours dans votre bibliothèque.
Que j'ai toujours dans ma bibliothèque.
Qu'est-ce qui vous a mis en dédicace, Kadhafi ?
Oh, ben, je ne l'ai plus en mémoire.
Mais c'est dans votre livre.
C'était en mémoire.
Ah oui, donnez-vous du mal.
Oui,
c'était très banal.
C'était très banal. En hommage à...
C'était pas à mon ami Philippe, mais c'était,
oui,
c'était pas loin.
C'était en hommage, voilà, et en marque de respect.
Deuxième stratégie, vous ne lui demandez rien.
Ah, ben, ça, oui, je ne demande rien. C'est sûr. C'est ce qui fait ma force.
C'est une visite sèche.
Mais bien sûr.
Voilà.
Mais bien sûr. C'est ça, c'est l'idée. Et d'ailleurs, c'est ce qui a toujours fait ma force. Moi, je demande rien, donc je n'attends rien. Mmh. Et l'avantage, c'est que dans ces cas-là, on est dans la plus forte position de négociation qui soit.
Mmh. Et là, il vous confie une mission secrète, soi-disant.
Oui. Oui, oui. Oui, il vous laisse réconcilier à l'époque. C'est l'époque où Kadhafi voulait être le roi des rois. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là.
Mmh. Le roi d'Afrique, déjà, il voulait être...
Le roi des rois traditionnel, voilà, en fait. Ouais. Hein. Et c'est vrai qu'à l'époque, le président en exercice de l'Union africaine se trouve être le président sud-africain, Thabo Mbeki, qui est un homme extrêmement sérieux, rationnel, rigoureux.
Ils étaient un peu fâchés.
Bah, disons que je pense que le président Mbeki considérait le guide... Brother leader, comme il l'appelait, comme certes sympathique, mais parfois un peu farfelu. Et donc l'idée était quand même de les remettre autour d'une table, ce que j'ai pu faire.
Voilà. Et vous vous êtes effacé.
Ah oui, absolument, absolument.
Philippe Bonne ne trahit pas de secret, mais en tout cas nous ouvre son livre de secrets, Profession agent d'influence, Business Élysée Afrique, les aventures d'un homme de l'ombre, qui est avec nous jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon et Émilie Avril sur Beurre FM.
Bon, il n'aime pas qu'on dise ça, mais c'est un homme de l'ombre qui sort de l'ombre aujourd'hui, puisque Philippe Bonne est notre invité à l'occasion de la publication de Profession agent d'influence. Je ne sais pas si c'est votre métier, aux éditions Plomb. Et vous nous disiez tout à l'heure que vous êtes un hégélien et vous ouvrez dans ce livre la porte de ce que vous appelez la raison dans l'histoire.
Absolument.
Voilà, pour citer et reprendre le titre, un titre d'un texte d'Hegel.
Rien de grand dans l'histoire n'advient sans passion.
Bien. Vous évoquez un petit peu votre la façon dont vous avez pu mettre en place des réseaux, ce qui est le moteur de votre vie. Est-ce que vous avez une touche particulière, vous, si on devait de définir votre touch à vous ?
L'empathie mise au service de la construction de l'outil réseau. Quand vous dirigez une entreprise, par exemple, industrielle, une entreprise, ce n'est rien d'autre qu'un réseau de ressources humaines qui, mises les unes avec les autres, permettent de construire l'entreprise en question, quel que soit le secteur d'activité. Alors, je suis un spécialiste de l'aéronautique et de l'aérien, bien sûr, mais vous pouvez aller vendre des chaussettes Kindy, vous pouvez aller distribuer de l'essence, exploiter du pétrole, faire du nucléaire ou de l'aérien. À l'arrivée, le métier d'entrepreneur, la construction de l'entreprise, c'est un réseau. Un jour, j'ai eu la chance de croiser M. Branson dans un hall d'aéroport, si j'ose dire, et je lui dis, parce que j'ai quand même beaucoup d'admiration pour son parcours, je lui dis, mais comment...
Monsieur Virgin.
Voilà, je lui dis, mais comment vous avez fait ça? Et c'est ce qu'il m'a répondu, il m'a dit, mais c'est la ressource humaine. C'est le réseau de la ressource humaine dans l'entreprise.
Mais après, il faut qu'il y ait une synergie.
Bien sûr, mais c'est ça l'art du dirigeant d'entreprise, c'est ça l'art du manager. C'est de créer cette synergie pour que cet outil devienne un outil dynamique et contribue à la construction d'une entreprise, d'une industrie. C'est ça l'idée, c'est de concevoir l'outil et de savoir l'utiliser.
À qui doit-on cette phrase « Ce qui compte n'est pas d'avoir un carnet d'adresses, mais de savoir le construire » ?
C'est de moi, non ?
C'est de vous.
Comme quoi, on dit des tas de choses.
Dites l'une des forces du réseau est de dépasser les contradictions des institutions et les prises de position officielles des États.
Oui, par définition, l'outil est plus souple que la boîte elle-même. Et donc, l'outil est plus souple d'emploi. L'institution, c'est une boîte, c'est une case, c'est un bloc. Et par définition, c'est à l'intérieur que ça vit. Et le réseau, l'outil du réseau, à cette grande liberté d'action que n'a pas l'institution, la boîte à outils en elle-même.
Les mythes ont la vie dure dans votre métier. Qu'en est-il de celui des intermédiaires miracles ?
C'est véritablement un mythe, alors contre lequel je me suis toujours élevé. L'une des choses que j'aime bien quand je fais quelques séances de formation avec des cadres de groupes industriels, c'est de leur dire que la construction d'un réseau d'influence au plus haut niveau est un élément qui permet d'éviter la corruption. Parce que c'est rarement les présidents qui vous demandent quoi que ce soit. C'est en dessous que ça devient problématique parfois. Et donc, ce qui est, je crois, extrêmement important, c'est de développer une capacité consciente de construction de réseaux au service des entreprises, parce que quand on respecte un process et une approche, raisonnée de cette méthode et de cette façon de travailler, ça permet de s'affranchir de beaucoup de ces intermédiaires dits miracles.
La plupart. Donc ça veut dire que toutes les histoires de commissions, de valises, elles sont mythifiées ?
Non, elles existent précisément. Parce que parfois, sous l'impulsion de certaines autorités, on crée le mythe du soi-disant dealmaker, du soi-disant homme incontournable. Finalement, ça n'a pour objet que de justifier leur présence dans des deals dans lesquels, bien souvent, ils n'ont pas véritablement d'influence réelle. La réalité, c'est que, par exemple, quand vous avez des produits de qualité, quel que soit, une fois de plus, le secteur d'activité, aéronautique, armement, pétrole, peu importe, si vous avez un bon produit, et que vous avez la capacité de construire avec méthode ce réseau d'influence vers le décideur ultime. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaires et vous vous affranchissez des questions de corruption. Le problème, c'est que ça arrange beaucoup de monde de faire croire qu'il y a des deus ex machina et intermédiaires incontournables.
Mais quand vous vendez par exemple des Airbus à l'Afrique du Sud, qu'est-ce qui fait que vous emportez le marché ?
Qu'est-ce qui fait que j'emporte le marché ? Précisément, la capacité que nous avons eue à identifier qui allait prendre la décision, quels étaient les moteurs qui conduisaient à cette prise de décision et l'analyse assez fine du fait que on a pu évaluer ainsi quelles étaient les valeurs ajoutées que nous devions proposer pour obtenir le marché. En l'occurrence, le levier était politique.
Qui appelez-vous le David Copperfield du monde des affaires ?
Ah là, j'ai mauvaise mémoire.
D'accord. Ça vous arrange, hein ?
Bien sûr.
C'est-à-dire que c'est plus facile d'écrire des choses que de les dire ? Encore aujourd'hui, non,
Non, bien sûr que je sais.
J'espère bien, parce que sinon.
Que vous faites allusion.
On en parle beaucoup en ce moment.
À l'affaire Djouri dont on parle beaucoup. Mais une fois encore, je n'ai pas d'animosité contre qui que ce soit. Je suis quelqu'un de très factuel.
Mais on parle des mythes, c'est pour ça que vous dites.
C'est pour ça, oui, absolument.
On parle des mythes, parce que quand on ne sait pas, on peut facilement s'inventer une vie et s'entretenir une légende.
Exactement. Et c'est ça la clé. Mais je ne pense pas d'ailleurs que. Il y a eu tout un ensemble, toute une génération, si j'ose dire, de ces intermédiaires qu'on a déifiés ou. On en a fait des statues, une fois de plus, pour justifier leur présence. Ces personnes peuvent avoir des qualités personnelles, ça n'a rien à voir. Elles sont, j'allais dire, l'outil d'un système. Mais objectivement, pour ce que j'en sais, et moi pour ce que j'ai pu observer, bien
et
souvent...
Et c'est ce que vous dites dans votre livre, pour ce que j'en sais, ce que j'ai observé.
Ils n'ont pas eu d'utilité dans les marchés sur lesquels moi j'ai pu intervenir. Je n'ai pas à juger sur d'autres choses. C'est pour ça que je suis gêné d'en parler au sens où j'aime pas crier avec les loups et où j'ai pas de jugement définitif. Moi, je ne parle que de ce que je fais, de ce que je sais et de ce que je connais. Donc j'évite après de tirer des plans trop généraux sur tous les autres dossiers.
Alors vous racontez un rendez-vous que vous avez avec Nicolas Sarkozy un jour et qui vous demande de partir en mission. Pour aller voir votre ami Saïf Kadhafi. Qu'est-ce qu'il vous demande ? Ça, vous l'avez vécu. Donc,
oui, bien
là,
sûr.
Donc là, c'est
sûr.
Vrai, c'est du factuel.
Écoutez, oui, alors je peux le dire d'autant plus que...
J'adore l'histoire.
Oui, mais c'est comme pour ceux qui connaissent Nicolas Sarkozy et son dynamisme et d'une certaine manière sa spontanéité. En effet, quand il y a eu toutes ces histoires dont on parle beaucoup aujourd'hui sur les...
Vous voyez, je suis prudent. Hein,
présumé financement. J'ai vécu cette demande comme l'expression, c'est comme ça que je l'ai vécu et comme je l'ai ressenti, comme l'expression d'un homme qui est très meurtri et étonné des accusations qui sont proférées contre lui et qui dit, bah tiens, va voir ton ami Saïf, lui, il va bien pouvoir nous écrire que tout ça c'est de la rigolade et que c'est pas vrai et que je comprends
pas. On parle d'un financement présumé de sa campagne présidentielle de 2007 pour un montant de 5 millions d'euros.
Oui, tout ça. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses...
Donc il vous dit, toi qui le connais bien... Ça te dirait pas d'aller faire un petit tour en prison avec un passeport ivoirien pour lui dire qu'il arrête de dire des conneries contre moi?
Oui, parce que il est de bonne foi quand moi je le ressens comme ça. Et Dieu sait si j'ai pas épargné Nicolas Sarkozy sur sa guerre en Libye, dont je pense que c'est la plus grosse erreur de son quinquennat. Mais une fois qu'on a dit ça, du point de vue de mon point de vue, quand je reçois quand on a cet échange, ce dialogue, j'ai en face de moi quelqu'un qui se sent attaqué à tort et qui, assez presque naïvement, dit t'as qu'à lui demander parce qu'il va dire la vérité et donc la vérité c'est qu'il n'y a rien à cacher, que tout ça c'est des grosses conneries. Bon, c'est comme ça que je ressens.
Mais voilà. C'est un genre de mission qu'on peut vous confier. S'il pense le faire, c'est qu'il pense que vous pouvez y aller.
Oui, ça m'est arrivé de faire des choses aussi compliquées. Mais là, à un moment donné, il faut savoir où s'arrêter trop
tôt. Ça vous disait rien, le passeport
À l'époque, Saïf, que j'aime beaucoup, qui est un ami, que j'ai toujours défendu et que je continue de défendre.
Et alors que maintenant, il est passé de mode. Donc, c'est ce que vous dites aussi, c'est que finalement, dans un réseau, il faut savoir rester ami envers et contre tout.
Je ne calcule pas mes amitiés au degré de ce qu'ils m'apportent. Je calcule mes amitiés.
Il y a quelques personnes inculpées en ce moment qui doivent se dire, qu'effectivement leurs amis les ont quittés et ont désertés.
Oui, mais je ne vais pas renier un homme comme Saïf parce que voilà, c'est un homme de qualité. Il est comme tous les êtres humains. Il a ses qualités, ses défauts, mais voilà. Et je reste convaincu d'ailleurs qu'il peut avoir un rôle très bénéfique pour l'avenir de la Libye et pour la réconciliation de ce pays, parce que c'est quand même, on a contribué à le mettre dans la grosse pagaille, hein, ce pays, il faut quand même pas l'oublier, il faut quand même jamais oublier, puisqu'on est sur le sujet, que tous ces migrants là qui meurent en mer, ça n'existait pas.
Mais qu'est-ce qui vous répond, Sarkozy, quand vous lui dites ça?
C'est un sujet qu'il n'aime pas tellement évoquer et ça fait fort longtemps que je ne l'ai pas vu, donc je n'ai pas eu l'occasion d'en parler récemment avec lui. Mais une fois encore, c'est pour ça que j'essaye de faire la part des choses. Je ne crie pas avec les loups. Sur ces histoires de financement, je pense qu'il y a beaucoup de bêtises qui sont dites sur les rôles supposés qu'aurait joué telle personnalité libyenne. Pour ce que je connais du fonctionnement...
Des réseaux et de l'époque, de comment ça fonctionnait à l'époque, et qui avait la caisse et qui...
Exactement. Il y a beaucoup de gens qui se font mousser de leur importance.
C'est pour ça qu'on parlait des mythes tout à l'heure et qu'on s'invente des légendes.
Voilà, absolument. Et en plus, le guide avait la réputation d'être assez pingre. Donc,
est-ce qu'il avait autant d'argent qu'on le disait d'ailleurs ? Parce qu'on s'est rendu compte que non, finalement.
J'en ai pas la moindre idée. Je pense que le gars, il se posait pas la question, parce que par définition, quand j'entends par exemple souvent les gens disent le président Kadhafi n'a jamais été président. Il n'a jamais été président de la République. Et son job, c'était guide. Il y en avait qu'un d'ailleurs, le mec, il y a un guide, c'était Kadhafi. Il n'était pas président, il était guide, voilà. Et d'ailleurs, quand on parle de Baghdadi, Premier ministre, je crois que Baghdadi, son titre, c'était pas Premier ministre, c'était secrétaire général du secrétariat du Comité populaire, je sais pas très bien. Enfin, la Jamaïria libyenne, c'était un peu compliqué. Mais c'était une institution en dehors du monde.
Vous racontez, c'est votre période libyenne qui n'est pas la plus longue, mais vous racontez plein de choses, notamment un dîner à Singapour avec
le
fils Kadhafi, l'anniversaire au large de Cannes, enfin bon.
De Saint-Tropez.
Vous racontez également les dessous de la visite officielle de Sarkozy au Rwanda en 2010. Il voulait faire de vous, Sarkozy, son monsieur Afrique. Pourquoi vous auriez accepté ça?
Aujourd'hui,
un peu Jacques Faucard.
Ça aurait été un grand honneur. Hein, je ne vais pas vous cacher les choses. Oui, je renie pas ça. C'est vrai qu'à un moment donné, il en a été question. J'étais très honoré qu'il y pense, et je l'aurais évidemment accepté. J'aurais sans doute eu tort de l'accepter parce que je suis d'abord un homme de l'entreprise. Mais c'est vrai que quand on est engagé, quand on aime un continent, quand on pense qu'on peut apporter une pierre, une contribution à l'édifice, et ben ça aurait été l'occasion de le faire.
Mais est-ce qu'on est plus utile justement quand on est dans l'ombre ou quand on est aux affaires ?
Chaque outil a son utilité et sa raison d'être, donc il n'y a pas plus ou moins utile. Il y a des façons différentes d'approcher un même sujet.
Nouvel outil, nouveau projet, nouveau métier. Aujourd'hui, vous êtes directeur général d'Air Sénégal. C'est pour quand les premiers vols ?
Eh bien, dès que nous aurons obtenu notre PEA, nous y serons, donc nous n'en sommes pas très loin.
C'est vrai que c'était reporté plusieurs fois. Là, on parle de l'été.
Non, il n'y a pas eu de report.
Il y a plusieurs annonces.
Il y a beaucoup de gens qui, notamment dans la presse, sont pas forcément des spécialistes de l'aérien, qui racontent beaucoup de choses. Et puis, on est dans une période politique préélectorale, donc forcément, il y a beaucoup d'agitation. La réalité objective, factuelle et opérationnelle est que nous avons commencé notre processus d'acquisition du PEA en octobre, que dans... Le monde entier, si vous demandez un PEA, ça va être entre 9 et 10 mois, l'acquisition d'un PEA. Donc, non seulement nous ne sommes pas en retard, mais comme je pense que nous sommes assez efficaces, nous aurons notre PEA assez rapidement et bien avant les 10 mois qui seraient raisonnablement...
D'accord, mais ça volera pour cet été ou pas ?
Ah ben, je l'espère bien, mais je dis pas dans... Oui.
Il n'y a pas de... Vous retournerez au Maghreb ?
Avant l'été, j'espère bien.
Pour tous nos auditeurs du Maghreb qui nous écoutent...
J'espère bien. Il y a des lignes très importantes, des liens très importants entre le Sénégal et le Maghreb. Bien sûr, ce sont des destinations très importantes pour nous.
Irez-vous à Alger ?
Je vous répondrai ça quand nous serons en opération.
Impossible.
Je ne vais pas vous révéler mes secrets industriels.
Alors, vous pouvez nous le dire, juste à nous. On le répéta pas.
Non, vous avez tellement d'auditeurs sur Beurre FM que ça va finir par savoir.
Bien, surtout sur des lignes qui concernent l'Algérie, vous allez voir. Philippe Bonne est notre invité aujourd'hui. Merci d'avoir partagé quelques-uns de vos secrets, profession, agent d'influence. Vous allez voir, c'est passionnant. Pour tous ceux qui s'intéressent justement à la construction d'un réseau, leur utilité, c'est le livre qu'il faut lire puisque c'est un livre de stratégie et c'est aux éditions Plomb. Merci de vous être arrêté sur Beurre FM ce matin.
Merci de votre accueil.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.